saine cause. Du bien commun et d'un monde vivable. Émission présentée par André Duny.
Bonjour.
Nous vous retrouvons avec plaisir, André Duny, la saine cause. J'espère que vous connaissez bien notre numéro de téléphone 06 75 80 05 79 et que ce soit dans la vallée du Grésivaudan ou en Chartreuse ou dans l'avant-pays savoyard, vous pouvez avoir tout plaisir de nous avoir en direct au 06 75 80 05 79. On accepte même, peut-être pas les insultes, mais les critiques les plus acerbes. Voilà, aujourd'hui je reçois Sandrine, qui est de l'association merveilleuse, j'ai assisté à deux ou trois animations, qui s'appelle les Penseurs de Terre. En fait, permettez que je les appelle les Penseuses de Terre, parce qu'elles ont une exquise sensibilité à la nature et aux humains, et elles sont elles-mêmes des personnes à connaître, et nous allons les connaître à travers ce qu'on appelle la permaculture. Alors, ma première question à Sandrine, bonjour Sandrine.
Bonjour.
C'est qu'est-ce que tu fais en ce moment sur les hectares que vous mettez en valeur comme votre terrain de jeu pour, dis-tu, ensauvager l'homme, pour réconcilier l'homme avec la nature, hein. Vous sentez bien que ça fait partie d'une grande partie de ce que nous vous disons. Alors, qu'est-ce que tu fais en ce moment ?
Alors, en ce moment, on est sur le projet du jardin forêt. Donc, en fait, on est sur le plan de plantation pour essayer d'organiser au mieux les arbres entre les plantes, enfin, voilà, toutes les strates qu'on va mettre en place. Donc, les arbres fruitiers, imaginer quelle taille ils auront quand ils seront grands, pouvoir envisager, du coup, les ombrages. Les interactions qu'ils vont pouvoir mettre en place entre chaque plante. Et voilà, essayer de coordonner tout ça le mieux possible, de façon à ce que tout soit le plus autonome possible et le plus efficace en termes d'autonomie de...
Alimentaire pour toi peut-être, et puis d'autonomie aussi de la nature.
Voilà.
Toi tu penses que la nature peut vivre sans l'homme alors ?
Alors je pense que l'homme et la nature ne sont pas à différencier en fait. Je pense que l'homme fait partie de la nature et la nature fait partie de l'homme. Pour moi c'est deux choses qui sont en interaction, qu'on a voulu, qu'on a séparées. Mais pour moi, la nature a besoin de l'homme et l'homme a besoin de la nature.
Alors, tu prenais l'exemple tout à l'heure du pommier.
Mm-hmm. Alors, le pommier, oui, justement, ça, c'est un exemple assez parlant. C'est que chez nous, en Europe, le pommier sauvage est plutôt sélectionné par les animaux comme les sangliers qui ont des palais qui sont plutôt adaptés à la nourriture amère et... âpre, acide, tout ça. Et ce qui fait qu'on a du coup des pommiers sauvages qui créent des pommes au goût de ces animaux, donc qui sont les agents de sélection en fait de ces arbres. Et quand on observe les pommiers sauvages du Kazakhstan, qui sont eux sélectionnés par l'ours, on voit en fait qu'ils créent des pommes qui sont beaucoup plus sucrées, donc qui sont adaptées au palais de l'ours, qui affectionne un petit peu comme l'homme les mêmes saveurs. Et donc là, ça montre bien en fait que la plante, l'arbre, là en l'occurrence,
interagit
avec le son agent sélectionneur.
Voilà. Enfin, soit l'homme, soit le sanglier, soit l'homme,
soit l'ours. Quelconque animal.
Donc toi, tu vas sélectionner des fruitiers, tu dis, qui vont interagir, c'est-à-dire agir ensemble. Entre eux, donc tu vas mettre peut-être pas tel arbre à côté de tel autre, voilà. Mais aussi ce que tu vas cultiver dessous.
Tout à fait, et puis il y a déjà s'intéresser à qu'est-ce que le sol permet en fait comme implantation, c'est déjà partir de ça. au niveau du climat, du sol et là où il en est au niveau de son évolution. Parce qu'un sol, une prairie, quand on prend une prairie, sa dynamique naturelle est toujours d'aller en direction de la forêt. Donc il y a plusieurs étapes de ce qu'on appelle les successions végétales qui vont nous permettre de savoir là où on en est en fait. Et par exemple, dès l'instant où on observe la présence de ronces, c'est que notre terrain est en train de se préparer à accueillir des jeunes arbres et à devenir forêt.
Tu veux dire qu'il se prépare, il n'est pas intelligent le terrain?
Mais bien sûr que si, il est intelligent.
Comment une prairie se prépare à devenir forêt, puisque tu dis qu'elles évoluent toutes vers la forêt. Donc dans la permaculture, on observe énormément comment ça bouge,
tout à fait.
Quelle est la nature du terrain et comment elle se prépare, la prairie, vers la forêt.
En fait, on a des étapes. Par exemple, si on part d'une, d'une roche-mère, on va avoir en premier tout ce qui est mousse, lichen, tout ça, qui va commencer à travailler la roche, en fait, à commencer à dégrader cette matière et apporter de la matière organique. Ensuite, donc, on va avoir une petite litière de sol qui va commencer à se créer, qui va pouvoir accueillir des plantes annuelles, qui font leur cycle sur l'année. Puis ensuite, elle va pouvoir accueillir des plantes mi-annuelles, plus vivaces. Et ensuite, on va avoir tout ce qui est petits buissons et typiquement plantes épineuses qui sont en fait là pour permettre aux jeunes arbres de se développer à l'abri des prédateurs, comme par exemple des chevreuils qui pourraient venir. Et ce qui est intéressant, c'est que justement la ronce, elle crée cette barrière naturelle. Et elle permet aux jeunes arbres, donc sous son couvert de feuillage, de croître, on va dire, à l'ombre de leur feuillage, des feuilles des ronces, pendant leurs 2-3 premières années. Et à ce moment-là, les arbres sont ce qu'on appelle sciaphiles, donc ils affectionnent le milieu ombragé. Et ensuite, ces arbres donc, vont dépasser le couvert végétal de la ronce et vont devenir héliophiles. Donc, c'est-à-dire qu'ils changent en fait et ils affectionnent le soleil. Et donc, ils vont continuer à se développer et créer de l'ombrage sur la ronce qui, elle, n'aime pas l'ombre et qui va venir se décaler en fait. Et qui va du coup faire avancer la lisière. Voilà. Donc souvent, on nous demande souvent comment on peut lutter contre les ronces. Bah, la meilleure manière de lutter, entre guillemets, contre les ronces, c'est d'utiliser leur rôle écologique et de s'en servir, en réalité, pour implanter
un verger. En plantant un arbre dans un roncier.
Pourquoi pas.
D'accord. Voilà comment une prairie se prépare à devenir une forêt.
Exactement.
Donc on voit une des racines fondamentales de la permaculture, observer comment la nature s'y prend. Alors, dans sa complexification progressive pour fabuleux, donc le roncier protège les jeunes pousses d'arbres. Et voilà, bon, bah écoute, au point où on en est, on commence à comprendre que ce sont des cycles hein, et que c'est un système. Mm-hmm. Alors, on va y revenir. Comment vous voyez le rapport de l'homme à cette nature? Vous voulez la réensauvager, mais... On va peut-être, pour intéresser nos auditeurs, parce qu'ils sentent bien qu'on est là dans l'écologie sociale, hein, où on ne sépare pas la société de la nature, et où on s'intéresse dans la société aux gens les plus exclus, les plus massacrés par le système qui domine cette nature, les puissants, les riches, etc. Qu'est-ce que vous faites, vous, en matière de... Ben, pour réconcilier avec la nature, est-ce que le mieux, ce ne serait pas que tu organises ou que vous organisiez des... comment vous appelez ça, vous, des cueillettes des...
Alors nous, ce qu'on est en train de justement mettre en place et qu'on souhaite développer, c'est... donc au sein de l'association, on a créé un groupe transformation et on s'intéresse justement à comment on peut valoriser les ressources qui sont naturellement présentes et accessibles. Donc là, typiquement, on a travaillé sur l'ail des ours. Donc on a fait une grosse cueillette collective au printemps où là, chacun est invité à venir participer avec nous à la cueillette et à la transformation des plantes, à la mise en pot, etc. etc. Et en fait, bah voilà, l'idée, c'est de pouvoir valoriser les ressources qui sont gratuites et qui sont en plus beaucoup plus nutritives, plus intéressantes en termes de nutrition pour l'homme.
C'est pas tout à fait gratuit, il faut mettre de l'huile d'olive.
Hein. Alors, tout à fait, oui, la transformation après... Mais on va dire que la base, en tout cas, est gratuite et accessible.
Et ça a un bon nutriment.
Tout à fait, oui.
Qu'est-ce qu'on trouve dans l'ail des ours, alors?
Ben,
au lac d'Aigbelette, vous pouvez y aller avec une faux. Moi, j'ai une prairie où j'y vais à la faux, mais j'en ai ras-le-bol parce qu'on en a trop fait. Ouais. Mais vous
alors,
en vendez.
Attention
alors,
les arômes aussi avec la faux.
Hein?
Attention aux arômes avec la faux. Ah. Attention au muguet.
Ah oui, on coupe le muguet, oui.
Oh, bah, disons que c'est des méthodes de cueillette qui sont un petit peu radicales.
Oui, quand je dis la faux, je parlais de la serpette, hein, parce qu'en réalité, la faux, je l'ai laissée dans le coffre. Mais c'est une véritable forêt de magnifique.
Oui, c'est des tapis entiers, ouais, ouais. Tout à fait. Ouais. Et justement, on s'intéresse justement à pouvoir aussi développer tout ça sur d'autres plantes qui sont très abondantes, comme l'ortie, la ronce, par exemple aussi, qui est une très bonne plante alimentaire.
Alors, la ronce, l'ortie, tout le monde a compris, vous prenez les têtes d'ortie, de patates ou du topinambour que vous pouvez faire pousser partout dans les clairets, etc., et un peu de poireaux si vous en trouvez, et vous avez une soupe succulente. L'ortie, on sait que c'est plein de silice, pas d'herbes, etc. Mmh. Mais le roncier, c'est une grosse merde qui emmerde les paysans. Voilà ce qu'ils me disent à l'épin. La ferme de l'épin me dit, on va niquer le roncier avec du Roundup.
Alors que justement, déjà, elle a un rôle écologique qui est vraiment intéressant.
On l'a compris tout à l'heure, oui.
Voilà. Et ensuite, c'est une plante, déjà, tout le monde connaît les mûres. Voilà, c'est une plante où on peut manger tout ce qui est jeunes pousses, donc de feuilles.
Ah, bon, d'accord.
Voilà, cru.
Les jeunes pousses en feuilles, ça fait de la bonne salade.
On peut les mettre dans la salade. On peut manger les jeunes pousses de tiges qui sont encore tendres. Donc épluchées, crues, comme ça, on peut les manger directement en balade, si on n'a pas la patience de les ramener à la maison. On peut faire du thé de ronce, donc avec les feuilles, qu'on va faire fermenter. Donc c'est ça la différence avec une infusion et ce qu'on appelle un thé. Un thé, c'est une fermentation de feuilles. Voilà.
Et après, tu le bois, et ça a quelle vertu? Alors, le thé, c'est un antioxydant, tout ça. Je suppose que c'est aussi un antioxydant.
Oui, tout à fait.
Ouais.
Et puis, c'est très, très bon en termes de goût. Ça a un goût de cassis, framboise. Ça développe, justement, la fermentation développe des arômes qui sont différents de ce qu'on pourrait obtenir en séchant simplement la feuille.
Alors, qu'est-ce que vous faites d'autre en matière de cueillette? Donc, voyez, on peut avoir un bon thé Kratos avec des feuilles de roncier. Vous avez compris que l'approche permaculture, c'est de montrer comment la nature s'auto-organise et qu'il y a toujours une fonctionnalité qui apparaît alors qu'on a l'impression d'avoir affaire à des mauvaises herbes, des mauvais ronciers qu'il faut défoncer à coups de produits chimiques ou de défonceuses tracteurs. Et tu ne le fumes pas, toi, les feuilles de framboisier? Paraît que ça se fume.
Alors, on peut les fumer aussi. Il y a beaucoup de plantes
d'accord.
qui se... Ouais,
il y en a qui fument les feuilles de framboisier.
Les feuilles de framboisier, de cassis.
De cassis. Mm-hmm. D'accord. Est-ce que tu vois d'autres choses que vous fassiez de ce côté-là? Et puis, on passera à un autre chapitre. Donc, comment se nourrir dans la nature? Pas trop dégueulasse, pas trop pollué, hein, pas forcément en bordure d'une autoroute. Voilà, hein, donc je donne les coins. Toi, c'est Verrienne, y en a en Chartreuse partout. Et là, au bord du lac, entre Aigbelette et les Pins, à droite, dans le merveilleux bois de Hêtre, vous avez des champs entiers, gratos pour vous faire un condiment pour tout l'hiver.
Tout à fait. Après, il y a des plantes aussi qui nous intéressent, comme par exemple la renouée du Japon.
Ah!
Donc, il y a une plante, pareil, qui est...
Qui envahit les bords du lac d'Aigbelette.
Que tout le monde déteste parce qu'elle est dite envahissante. Alors, je dis, elle est dite envahissante parce que... comment dire? En fait, c'est une plante qui vient s'implanter sur les milieux qui sont pollués. Et elle, son rôle écologique, c'est de dépolluer le sol. Donc effectivement, si on la coupe tous les ans, elle ne finit pas son travail. Alors que si, en fait, on la laissait faire son job, elle partirait ensuite... elle aurait plus, disons, son milieu aurait changé et du coup, elle aurait plus sa place ici.
Alors, elle dépollue quoi ?
Elle dépollue au niveau des métaux lourds.
Comme l'ail.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne fixe pas ses métaux, elle les métabolise, ce qui fait que ça en reste une plante qui est parfaitement comestible, qui est beaucoup consommée en Asie. Et, chez nous,
et on en fait quoi alors ? On peut manger en salade les
On peut manger les jeunes pousses, oui. même cuits. Alors il y a des recettes par exemple qui sont assez rigolotes parce que c'est une tige qui est creuse. Donc on peut s'amuser à faire des petits cannelloni, les farcir, tout ça avec une petite béchamel, le faire en gratin. Voilà, il y a plein de façons de les
accommoder. Eh bien, bord du lac d'Aigbelette, pas cher. Mais ça veut simplement dire qu'il est plus pollué qu'on ne le pense, parce que la renouée, il y en a un gros paquet.
Voilà.
Hein, je vous rappelle quand même qu'il vaut mieux manger de l'ail bio que de l'ail pas bio, parce que l'ail, c'est pareil. Ça ramasse un max les métaux lourds et on s'intoxique. Quand on veut dépolluer un terrain, il n'y a qu'à mettre de l'ail et puis le brûler.
Down on the ground, it's easy.
C'est intéressant pour tous ceux qui n'ont pas de ronds, qui peuvent se nourrir. Eh bien, le fait de pouvoir, avec les milieux populaires, aller vers un peu plus d'autonomie alimentaire plutôt que d'être coincé avec les grandes surfaces de l'agroalimentaire capitalistique, eh bien, c'est une solution à travers... Par exemple, vous faites quelque chose, vous, avec les topinambours ? Moi, j'adore ça.
Bah dans notre, avec oui celle qu'on a dans le jardin, mais pas en termes de pas massivement comme on peut le faire avec le pesto d'ail des ours.
D'accord. Voilà. Parce mais qu'on peut le faire massivement parce que c'est un nutriment incroyablement bon, sélénium
oui,
et
oui,
tout.
Oui, tout à fait, oui, bien sûr.
Je parle du rouge. Hein,
Après, c'est que nous, on s'intéresse plus à ce qu'on va pouvoir trouver comme ça dans la nature, de
dans la nature brute, non transformée,
voilà.
Plutôt que d'aller y implanter des choses.
Voilà, ouais.
Et tu n'avais pas un projet d'ensauvager des plantes.
Oui.
Moi, ce que je dirais, c'est d'ensauvager des plantes potagères très nourricières en cas de crise économique et alimentaire, hein, parce qu'on va vers un crash alimentaire, hein, changement de climat, augmentation du prix des pétroles, peut-être guerre dans le détroit d'Ormuz. À un moment donné, on ne va pas aller chercher les tomates à 4000 km. Donc, avoir peut-être des légumes pour l'hiver plantés n'importe où, n'importe comment, qui permettraient d'avoir une réserve pour se nourrir, ça peut nous éviter certains ennuis.
Alors c'est quelque chose voilà, qui s'est déjà vu, par exemple sur Sarajevo, on sait que la survie des populations
La châtaigne.
La châtaigne, voilà, qui est le châtaignier qu'on appelait donc avant l'arbre à pain. Donc, était une ressource alimentaire très très abondante et qui a pâti de campagnes massives d'arrachage durant la monarchie parce qu'on considérait à l'époque que cet arbre favorisait la fainéantise. Tout simplement parce que, effectivement, les gens n'avaient pas besoin de travailler plus que d'aller cueillir leurs châtaignes, les mettre à sécher et les...
En faire des farines.
En faire des farines, etc.
Le seul département de France qui n'a jamais eu de famine en France, c'est...
L'Ardèche.
Eh oui, eh bien, moi qui vous parle, j'en ai déjà dit deux mots. Eh bien, allez à Attignan-Saint-les-Pins, trois forêts ont été rasées avec des châtaigniers pour faire du pognon. Alors que la forêt, si tu veux faire un jardin forêt, c'est peut-être que tu penses que la forêt a une plus grande fonctionnalité qu'un simple petit verger bien aligné.
C'est le système le plus abouti dans la nature, où il y a le plus d'interactions entre le plus de diversité possible. Voilà. C'est en fait le stade de ce qu'on appelle le climax. Donc c'est
l'équilibre.
Voilà, l'aboutissement en fait d'un système qui est en équilibre parfait. Voilà.
Ça veut dire, plus précisément pour nos auditeurs, dans une forêt, entre l'équilibre entre quoi et quoi ?
Entre chaque arbre, chaque animal, chaque insecte, chaque pollinisateur, entre tous les êtres vivants qu'on peut y trouver, de la microfaune jusqu'aux...
Les champignons, tu veux dire ?
Alors, il y a aussi
nourris
les champignons.
Nourris par cette microfaune et les filaments de...
Les mycorhizes.
Les mycorhizes, oui.
Oui, tout à fait.
Bon, ça, on ne le développe pas trop, parce qu'on pense que vous avez tous vu le fameux film sur l'arbre.
Il était une forêt.
C'était... Et il était une forêt, c'est autre chose, ça.
Non, c'était pas celui-là.
Non.
Non, d'accord. Okay.
Non, c'est l'intelligence des arbres.
L'intelligence des arbres, oui.
Ah, mais il y en a un autre.
Il y en a eu plusieurs, oui, effectivement.
Ouais, je pense que vous êtes tous allés voir l'intelligence des arbres. C'est aussi un bon bouquin. Mais toi, tu as une autre référence, alors, tu dis ?
Il était une forêt aussi, ça.
Ouais. Ah, ouais, c'est bien.
Ouais. Mais il y a plusieurs documents à ce sujet-là maintenant qui est en train de se développer un petit peu, ouais.
Alors, on voulait avec toi voir aussi la question des semences. Mm-hmm. Donc la nature se ressème elle-même. Mm-hmm. Et depuis est intervenu le grand catalogue de semences du gouvernement, mais dicté par les multinationales. Donc il n'y a plus que 8, je crois, variétés de tomates sur 1790. Certains disent 3400. Mm-hmm. C'est des tomates pour une bonne partie hybrides, quelques vieilles variétés, dans le but que les grands semenciers milliardaires puissent vendre et revendre leurs semences à chaque fois aux paysans, alors qu'avant ils faisaient ces semences. Donc c'est ce qu'on appelle le réseau semences paysannes. Je vais les interviewer, là je leur ai écrit, pour faire quelque chose spécifique semences. Vous, vous vous situez comment? Vous, je rappelle à nos auditeurs qu'on est avec Sandrine, une des deux pétroleuses, on disait ça, des femmes de la commune qui mettaient le feu aux maisons des Versaillais. pétroleuse, mais au meilleur sens du terme, hein, de penser, c'est plus moins des pétroleuses que des penseuses de terre. Qu'est-ce que vous faites, vous, côté semences naturelles, puisque tu parlais de réensauvager des alors, variétés potagères, comme par exemple la blette ou le poireau ou...
L'objectif, en fait, c'est de, ben, voilà, d'utiliser les semences qu'on a domestiquées, et c'est d'aller en fait, les endurcir et leur permettre en fait, de revivre de façon autonome dans leur milieu naturel d'origine.
Donc tu fais comment? Parce que avec les hybrides, c'est pas possible. Alors, les hybrides, elles
déjà,
se reproduisent
pas. On essaye de partir de semences qui sont reproductibles.
Oui.
Voilà. Et ensuite, ce qu'on va faire, par exemple sur la tomate, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de récupérer les semences d'une variété particulière. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'obtenir ce qu'on appelle une population adaptée au milieu.
Au terrain et au climat.
Qui sera le plus autonome possible vis-à-vis du jardinier.
Donc, vous faites comment? Est-ce que vous allez faire comme j'ai fait dans mon jardin, en donnant... je vais donner des plants cette année, mais je ne vais pas m'emmerder. Ben, Pierre qui est là, qu'on va entendre tout à l'heure, on s'est échangé quelques plants de tomates. Mm-hmm. Moi, j'ai fait une quinzaine de variétés. Ben là, ces variétés, je les ai balancées toutes pourrites, comme on dit, toutes pourrites, comme disent les enfants, sur le sol. Un peu de fumier, un peu de foin par-dessus, passe l'hiver et on verra au printemps. C'est des endroits riches, hein, où le terrain, après 3 ans, il commence à être riche, noir. Mm-hmm. Et bon, il a fallu amener des nutriments, hein, il faut faire démarrer le processus, c'était du rocher avant. Et j'espère bien, au printemps, recueillir. Alors, on va recueillir quoi? Des hybridées, des, celles qui auront survécu,
voilà,
qui vont être adaptées.
Les plus adaptées au milieu, voilà. Exactement.
D'accord. Mm-hmm. Donc, celles qui n'auront pas péri dans les conditions extrêmes de l'hiver, voilà. À l'Épin-le-Lac.
C'est ça.
Donc, tu vas faire pareil.
Exactement.
Toi, tu fais pas les godets, on s'emmerde plus avec ça.
Non, alors moi, je fais très très peu de semis, effectivement. Mais après, ça peut être aussi de les sortir carrément du jardin. Et par exemple, essayer de repérer, on a des fraises sauvages qui poussent à un endroit. Est-ce qu'on peut aller aussi...
Les mettre à un autre endroit?
Non, justement... Savoir que cet endroit est adapté à la fraise et peut-être du coup aller mettre des fraises qui sont domestiques et puis les remettre dans leur milieu.
Avec les sauvages?
Avec les sauvages.
Et ils vont se croiser?
Alors, sur la fraise, je ne sais pas, je ne suis pas sûre, mais en tout cas, oui, elles vont se réadapter au milieu.
D'accord.
Ou alors, ça peut être d'aller repérer, par exemple, l'ancêtre de l'artichaut, et puis d'aller remettre de l'artichaut là où on a trouvé son...
Moi, en ce moment, je réensauvage, justement, des fraises domestiques au milieu de fraises sauvages, au pied des vignes. La vigne adore la fraise, elle semble adorer la vigne. Mmh. Est-ce que tu vas faire tout un travail? Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus. Maintenant, dans ma progression personnelle, c'est comment on fait... que chacune aide l'autre, plutôt que chasse l'autre. Parce que ce n'est pas évident. Hein.
Alors, ce n'est pas évident. On a un certain nombre de connaissances en la matière, mais c'est vrai qu'on en est encore à
tâtonner un peu aussi.
Tout à fait. Je pense que le mieux, c'est déjà d'expérimenter aussi, parce que chaque endroit est différent, chaque sol est différent. Donc, c'est difficile de donner des recettes. Après.
Et puis, le mulot, il arrive et il va carotter par en dessous toutes tes belles blettes que tu auras en sauvage, tes cardons et surtout, ce qu'il adore, c'est le céleri. Moi, il m'a niqué 6 céleris bien dans l'alignement. Tous les deux jours, adieu le céleri.
Ils étaient trop bien rangés.
Eh ben voilà, eh ben paf, j'ai eu ma bâche, c'est bien comme ça qu'il faut faire,
voilà,
il faut bâcher, la nature c'est un peu de bordel dans le jardin,
c'est ça.
Voir où ça se passe et voir si un coin bien sauvage est pas propice à mettre un cerisier avec on sait pas trop quoi autour qui permette de vivre. Et avec les, les, les arbres, les pêchers, comment tu vas faire? Parce qu'ici, les pêchers, c'est de la cloque mm-hmm. à tour de bras. Hein.
Bah, en fait, déjà, voilà, ça va partir effectivement de sélectionner les variétés qu'on connaît les
anti-cloque.
Plus résistantes. Et puis ensuite, c'est aussi miser sur les interactions justement entre toutes ces variétés, toutes les espèces. Et c'est un peu un pari aussi sur le travail de la biodiversité elle-même.
Ouais. Mm-hmm. Pas évident.
Alors, pas évident.
Moi, j'ai deux qui sont en violente concurrence. Un pêcher et un figuier. Mais alors, c'est l'horreur. Hein. Ils poussent chacun l'heure vers l'autre.
C'est aussi l'exercice du lâcher-prise et puis accepter qu'on ne va pas pouvoir tout maîtriser.
Voilà.
Et qu'on
va pas mettre
une part d'incertitude. Et puis, de faire confiance aussi à la nature. Quoi.
Bon, chers amis lecteurs, pour bouffer des bonnes pêches, j'ai dit à Sandrine ma méthode. Cloque, j'enlève toutes les feuilles, je brûle. Ou je mets, on n'a pas le droit de brûler parce que ça fait de la dioxine. Hein, ne brûlez jamais rien, les brûlis, c'est en Inde, c'est les trois quarts de la pollution de New Delhi, c'est les brûlis de chaume de riz. Ne brûlez rien, mais putain, mettez ça dans un caniveau ou laissez pourrir dans un coin ou enterrer dans un coin, assez loin, hein, parce que ça revient. Moi, j'arrache tout. Et vous verriez mes péchés, mais c'est une splendeur. Tout arraché.
Ben voilà.
Et il refait ses feuilles. Et c'est là que vous voyez la puissance de vie de la nature. Et après, eh ben, vous avez des pêches. Mm-hmm. Ben, sinon, vous emmerdez à mettre de l'ail tout autour, de rangées ou trois rangées. Un cordon pour empêcher les fourmis de monter. Et deux ou trois traitements de bouillie bordelaise avant qu'il fasse son bourgeon. À ces trois conditions pour avoir une chance d'avoir des pêches. Ben, moi, j'ai une condition, j'arrache tout. Et incroyable.
Voilà, nouvelle technique.
Alors, c'est pas le tout, c'est que pour l'époque, on a parlé un petit peu des semences. Mm-hmm. Vous êtes dans le réseau Semences Paysannes ou dans un réseau qui permet d'échanger des semences? Je vais les faire venir ici, on a dit, des semences vraiment population, adaptées et tout ça, parce que moi, mes blettes, catastrophe, autant dans la Drôme, 2-3 blettes en rangée ou pas en rangée, ça repartait au printemps. Là, il n'y a rien qui repart. Mmh. Entre le mulot et le gel et la neige, blettes, donc c'est des hybrides de merde, je ne sais pas ce que c'est. Mmh. En vous rappelant, cher ami lecteur, ce n'est pas du conspirationnisme. Hein. C'est la réalité, c'est que les semenciers vendent aux maraîchers bio qui produisent 85 à 90% de nourriture à base d'hybrides qu'ils rachètent chaque année. Ce qui les ruine et ce qui nous enlève 20 fois les nutriments qu'il y a dans une variété population. C'est bien ça les chiffres. Hein. Il y a 20 fois moins de nutriments dans une tomate hybride comme la Montfavet que dans une tomate vraiment, vraiment élevée sauvage que, par exemple, je ne sais pas, au hasard, la Green Zebra ou la Noire de Crimée.
Alors
ou
les chiffres, je...
La prune noire ou autre.
Je ne vais pas me prononcer en termes de chiffres, mais en tout cas, on sait effectivement que c'est nettement moins riche en termes de nutriments. Après, on a des... Voilà, on a un exemple typique aussi par rapport à la vitamine C. Il faut manger, je ne veux plus dire de bêtises, je n'ai plus les chiffres en tête, mais voilà, ça représente en gros une grosse orange pour couvrir nos besoins journaliers en vitamine C. Donc une orange, bien sûr, qui n'a pas poussé ici, qui a nécessité du transport, la manutention, etc., etc. Alors que chez nous, on a les cynorhodons, donc tout le monde connaît les petits baies rouges de l'églantier. On appelle les gratte-cul pour la gratter. Et là, il nous faut 3 cynorhodons pour couvrir tous nos besoins en vitamine C de la journée.
À condition de ne pas les faire en confiture
les manger crus dans la nature. Voilà.
Oui, alors elle fait bien de le dire, puis je le rappelle toujours, chers amis, quand vous offrez des épinards à vos enfants frais et biologiques, c'est bien s'ils ont été arrachés le jour même, comme à la MAP du Lac, qui ont été interviewés ici, ou à Pressin, à la ferme de Pressin, sachez que tout ce que vous achetez dans les grandes surfaces, c'est zéro vitamine C. Vous entendez bien, zéro vitamine C. En 24 heures, 50% est perdu dans le déplacement, avec le soleil, avec les changements de température, 50% le jour suivant. Total, il vous reste zéro vitamine C au bout de 48 heures. Donc l'épinard, c'est quelque chose qu'il faut arriver à produire un peu partout, le rang sauvager, comme tu dis si bien, hein, et d'en avoir. Sachez bien aussi, alors j'espère que tu vas confirmer, une pomme de plein champ, comme il y en a en Savoie. Mm-hmm. Par exemple, la Nationale, on trouve ces pommes rouges, sang, vermeilles, j'en ramasse des pleins paniers, plus personne ne ramasse les pommes. Ben, ces pommes de plein champ, anciens vergers abandonnés entre autres, eh bien, elles ont 100 fois à 120 fois plus de nutriments, dont vitamine C, qu'une pomme hybride élevée en verger productiviste avec en bas un tuyau pour les engrais et l'eau. Au milieu, le gasoil contre le gel, géré par ordinateur. Et en haut, le troisième câble, enfin le troisième tuyau, c'est les pesticides pour des giclées. C'est-à-dire 37 giclées par an en moyenne pour les pommes que vous achetez en grande surface.
C'est un des fruits les plus traités, effectivement.
Oui, et les abricots aussi, puisque j'habitais près d'un champ d'abricots dans la Drôme. 37 traitements. Une horreur absolue. Et c'est maintenant des trucs systémiques. D'où l'intérêt des coquelicots, hein, dont on a dit un mot ici.
Je regarde par la fenêtre la neige qui ne fond pas dans les rues désertes et je m'ennuie de toi. Marie, je bois, je n'aime pas travailler. Quand je suis près de toi, j'aurais presque envie de changer. Marie, reviens, même si je t'ai trompé. Ma vie ne vaut rien sans ta présence à mes côtés. Passant nous laissant des souvenirs qui refont surface de temps en temps sans prévenir. Je me réveille parfois en pensant à ton cul. Aurais-je un jour le droit de remanger dessus? Marie, je vois, je n'aime pas travailler. Quand je suis près de toi, j'aurais presque envie de changer. Marie, reviens, même si je t'ai trompé. Ma vie ne vaut rien sans ta présence à mes côtés. Chagrins ne sont que des ondes du passé qu'on oublie un matin comme s'ils n'avaient pas existé. Au fond, je suis qu'un loser cherchant une âme valant la peine. À part toi, mon petit cœur n'a vu des baisses de fin sereine. Marie, je vois, je n'aime pas travailler. Quand je suis près de toi, j'aurais presque envie de changer. Marie, reviens, même si je t'ai trompé. Ma vie ne vaut rien sans ta présence à mes côtés.
Bon, alors, c'est pas le tout, mais moi je constate une chose qui m'énerve profondément, je vais dire Nature Harmonie par exemple. Voilà, 30 euros, une heure, on se promène autour du lac, on fait un petit peu de méditation en pleine conscience, on embrasse un arbre, ça s'appelle la sylvothérapie, on copule avec un arbre, on l'embrasse, je sais pas trop ce qu'on fait avec, hein. Et on a payé 30 euros pour marcher quelques secondes, quelques minutes au bord du lac d'Aigbelette. Avec 10 personnes, ça fait 300 euros en liquide. Ben, ça fait 300, oui, en liquide. Comme beaucoup au fond, en liquide, en Savoie, en liquide. Et voilà, et moi je suis un peu indigné de voir qu'on, comment dire, on mercantilise le lac d'Aigbelette, parce que c'est 3 euros maintenant l'entrée, jusqu'à 7 heures. alors qu'avant, à partir de 18h au moins, les pauvres pouvaient aller se baigner. Maintenant, c'est 3 euros. Et puis, si vous voulez vous ensauvager au bord du lac d'Aiguebelette, embrasser un arbre, c'est 30 euros. Nom de Dieu, il y en a marre de cette mercantilisation de la nature. Comment se situe Penseuse de Terre, ces deux merveilles, là, entre la Chartreuse et l'avant-pays savoyard, par rapport à cette marchandisation? Est-ce que vous, vous marchandisez la nature? Par exemple, vos bocaux, tout ça, est-ce que vous en profitez pour faire un pognon de dingue?
Alors, un pognon de dingue, non. Justement, l'idée, c'est quand même de pouvoir rendre cette ressource accessible à tout le monde. Et puis surtout de refaire prendre conscience que la nourriture, elle est accessible dans la nature. En théorie, on ne devrait pas avoir besoin d'argent pour pouvoir s'alimenter. Tout est à disposition. Voilà, pour peu qu'on puisse accéder encore à la nature, effectivement. Mais voilà, nous, par exemple, sur ce qu'on fait avec le pesto d'ail des ours, on essaye d'avoir des prix les plus justes possibles en fonction de des intrants qu'on a dû effectivement mettre, comme par exemple l'huile qu'on met, on la produit pas.
Et ça permet de financer ce que vous faites.
Et ça nous permet de financer en fait les transformations qu'on fait. Et puis.
Et vous faites aussi des formations?
Et on fait aussi des formations.
Alors c'est quoi? Là, ça nous intéresse fortement.
On fait pas mal d'initiations à la permaculture. Donc, pareil, nous, on essaye d'avoir, de proposer des prix fourchettes. Et puis, pas trop élevés. Et voilà, de rester le plus accessible possible. Et puis aussi de proposer aux gens qui n'auraient pas de moyens financiers de proposer du troc, soit des échanges de services ou des produits qu'ils font eux-mêmes. Voilà. Donc, il n'y a pas de barrière financière. Voilà.
Oui, parce que dans la marchandisation de la permaculture, coucou Sylvain, si tu m'écoutes, tu avais poussé un coup de gueule sur Radio Grésivaudan, Force à Luther. Je vais au salon Prime Vert à Lyon et je vais écouter la permaculture humaine. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, permaculture humaine. Je tombe sur un drôle de pistolet qui s'appelle Alonso, allons-y. Et Alonso, allons-y, il me dit oui, je viens présenter mon stage d'une semaine. C'est 1000 euros, mais vous démerdez pour vous héberger ou alors il faut payer. Petit déjeuner, vous payez, les repas, vous payez, et vous larguez 1000 euros pour les frais pédagogiques de la semaine. Donc, si on prend 30 personnes, ça fait quand même 30 000 euros. Allez, on va dire qu'on prend 10, 15 personnes, ça fait quand même 15 000 euros, il passe où le pognon? Quant au nom de la permaculture, on se permet de proposer des formations hors de prix, j'en vois partout sur Internet, c'est à tomber raide par terre. J'ai un gilet jaune comme témoin ici devant moi, et pas n'importe lequel, on en parlera tout à l'heure. Comment on fait pour faire prendre conscience aux populaires que la nature est un bienfait gratuit, abondant, qu'on peut peut-être éviter ou aller vers moins de crash alimentaire et de catastrophes alimentaires en essayant de se rapprocher de la nature? Comment? Il y a mille façons, les jardins collectifs au pied des immeubles. Tu as suivi peut-être ce que j'ai essayé de faire avec les HLM d'Abridoire, qui ont été barrés nets par, je le redis sans arrêt ici à cette radio, par le directeur des HLM de Savoie, bien que son personnel était fou d'accord, barré net. Pas question de cultiver au pied des HLM, on n'en veut pas. Comme ça, on est en France, l'oligarchie décide du haut de son immeuble de Chambéry qu'on ne recevra pas, qu'on ne répondra pas à 8 lettres et qu'on n'aura pas de la permaculture, puisque c'était quand même dans les 7 l'association d'aller vers la permaculture. On aurait eu besoin fortement de vous. Et il y a 1 hectare qu'on peut faire. 1 hectare, ça peut faire des soupes pour tout l'hiver, poireaux, patates, voilà. Et puis beaucoup de fruits rouges. On n'a pas parlé de fruits rouges, mais on n'aura peut-être pas le temps. Qui permettent d'être le meilleur aliment pour développer les... Voilà. Donc là, je m'énerve toujours un petit peu. Donc, adieu les jardins collectifs HLM. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez qui pourraient permettre l'autosuffisance alimentaire locale pour les populations qui sont déjà et qui vont être gravement impactées par la l'élévation massive du coût de la nourriture. Pas de la nourriture transformée, hein. Les pizzas à 1 euro, on aura toujours. Hein. La sauce tomate vient de Chine. Je ne sais pas si vous avez vu le film L'Or Rouge. C'est une catastrophe. Des machines ramassent les tomates sur 8 km de champ en longueur. C'est tout broyé. Ça arrive en conteneur d'une tonne dans des conteneurs en plastique, eux-mêmes mis dans des conteneurs. Ça arrive à Turi di Bari en Italie, où c'est débarqué en masse. Et là, la mafia rajoute un peu de mélanine, de flotte, des trucs pour allonger la sauce. Et c'est sur 95% de nos pizzas. Et on tue nos gamins avec les pizzas, sans le savoir, parce que voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient de bonnes tomates, de bons topinambours, des patates, de quoi faire à manger dans une période où, je viens de la vie claire, j'ai trouvé un très bon légume à 12 euros le kilo, qui valait... il y a peu de temps, 3 ou 4 euros.
Qui est ?
Hein ?
C'était quel légume ?
J'ai oublié.
Ah bon ? Mais
j'ai regardé, j'ai dit, c'est pas possible, 12 euros. Ouais. Un légume, hein ? Pas un fruit, un légume. Bon, j'ai vu des tomates à 8 euros l'été, en pleine production, 8 euros, c'est un vrai scandale. Des fois, on voit un chou-fleur qui est tout petit à 3,50 euros. Comment les gens peuvent se nourrir sainement ? Je ne parle pas de la grosse merdouille industrielle des grandes surfaces comme Super U. Je parle de la nourriture saine dont nos enfants ont besoin.
On pourrait imaginer peut-être aussi des régies maraîchères municipales, par exemple. On pourrait se dire que chaque petite unité territoriale pourrait bénéficier de sa propre production alimentaire. On pourrait aussi imaginer des grainothèques locales avec justement des plantes potagères qu'on aurait adaptées à chaque endroit différent. Tout ce qui est cueillir la ressource sauvage, garder et préserver des milieux sauvages aussi pour préserver
ces
ressources-là.
Ah oui, parce que pour cueillir, il faut qu'il y ait de la...
Absolument. Et puis, après, il y a des choses qui se développent aussi en ce qu'on appelle en permaculture urbaine. Sur les balcons, sur les toits, tout ça. Alors, effectivement, ça n'égalera pas ce qu'on va pouvoir faire pousser dans de la vraie terre, mais on va dire que c'est un moindre mal et ça permet de localiser la production et puis aussi d'avoir la satisfaction quand même de pouvoir créer sa propre nourriture et se relibérer un petit peu de tout ce
besoin. Et pour la philosophie de la permaculture, alors le fait, on est 100% synchrone là-dessus, hein. Mm-hmm. Jardins municipaux, grainothèques locales, cueillir la biodiversité dans la nature, préserver la ressource sauvage et notamment les zones humides. Bon, on a en face de nous un producteur de miel, certainement qui va en dire un mot, par rapport à les 110 000 tonnes de pesticides que la France balance, et les plus dangereux sont même pas le Roundup, puisque les substituts du Roundup sont 20 fois plus dangereux encore pour la biodiversité. Au fond, ça veut dire quoi qu'on voudrait remettre l'homme dans la nature et la nature dans l'homme ?
Mm-hmm.
Comment on fait alors ?
Est-ce
que le
travail.
Jardin au pied des HLM ou en urbain serait une bonne façon de remettre les êtres humains les mains, les pieds dans la terre, de recomprendre comment cette nature est en train d'agonir sous nos yeux sans qu'on le voie ?
C'est une façon d'aller dans ce sens-là, oui.
Donc c'est de l'éducation populaire ?
Ça fait partie de... Voilà, oui, tout à fait.
Pas seulement la blablate à la radio.
Et puis c'est vraiment, apprendre comment faire et puis le faire.
Voilà. Alors, sur la culture en balcon, moi j'avais beaucoup proposé la culture en sac.
Mm-hmm.
On avait fait une journée à... d'ailleurs, j'avais bien regretté que vous ne puissiez pas venir. On avait fait une journée pour 50 personnes à la salle des fêtes de la Bridoire. D'ailleurs, la commune ne nous a absolument pas soutenus sur le problème des terrains au pied des HLM, terrain que la commune a donné aux HLM, et ils n'ont pas été fichus de réclamer que les HLM donnent l'autorisation aux habitants de se nourrir avec un terrain qui appartenait à la commune et qui, de fait, appartient à la commune. Donc on avait fait un truc, troc de graines, puis mise en godet, puis chacun partait avec 50% des godets qu'il avait fait. Vous faisiez 40 godets, vous partiez avec 20.
Mm-hmm.
Bon, voilà, on avait fait tout un truc sur comment cultiver en sac sur les balcons. Qu'est-ce que tu penses de la technique d'avoir un grand sac qui fait 1,50 m de hauteur, et en jute de préférence, mais ça peut être en nylon ou autre, on bourre de feuilles mortes, de nutriments qu'on trouve dans la forêt, de terreau, de foin pourrite. Et on plante tout le long, tout autour du sac, et ça fait une plus grande superficie que d'avoir un bac. Hein, moi, j'aime pas bien les bacs, parce que ça a pourri là-dedans, il n'y a pas assez de nutriments et tout. Le sac est quand même un gros paquet. Mm-hmm. Une fois qu'on a installé bien son sac avec un bac dessous pour éviter que les voisins ramassent tout, vous avez une possibilité de planter des tomates au-dessus ou des, et planter tout autour des fraises, des, enfin ce que vous voulez. Mm-hmm. Et, sur les, et puis vous tournez le sac en fonction du soleil. Si vous le mettez sur un de ces trucs à roulettes, vous pouvez tourner ça. Qu'est-ce que t'en penses à culture en sac ?
Alors moi, j'ai jamais expérimenté personnellement, mais je trouve ça intéressant dès l'instant où ça permet aux gens de s'affranchir de tout ça et puis
d'avoir au moins des salades,
voilà, de pouvoir produire un minimum de.
D'accord. Mm-hmm. On arrive au bout gentiment. Écoute, Sandrine, on sera très heureux de vous recevoir.
Avec
toutes
plaisir.
Les deux.
Ça marche.
Redites-nous quels sont vos terrains d'exercice où on peut peut-être aller vous voir.
Alors, il y a la ferme de Bande, donc à Saint-Christophe.
Ferme de Bande à Saint-Christophe, on n'y va pas en voiture, n'est-ce pas ? Ni en SUV ?
Alors, non, c'est réservé aux courageux. Donc, il y a une petite marche de 20 minutes à pied avant de pouvoir rejoindre l'endroit. Et puis, il y a un terrain...
Là, vous y faites des formations, il y a un terrain, il y a des découvertes de ce qu'on peut y faire.
Oui.
Il y a des formations.
Alors, les formations, on les fait aussi sur d'autres endroits que nos lieux à nous. Voilà, donc la dernière qu'on a organisée, c'était à la ferme de la Berthe.
Voilà, où j'étais à un moment. Ouais.
Voilà, et puis le deuxième lieu qu'on a, c'est à Yenne. Donc là, on est sur un projet de jardin-forêt et de mise en valeur des ressources sauvages.
Voilà. Pas de ruches.
Alors, il y a des ruches d'un apiculteur qui les met depuis de nombreuses années, en fait, sur le lieu, avant que j'arrive. Et je le laisse très volontiers...
profiter des 4 hectares.
Exactement, oui.
D'accord, voilà. Mais il ne labellise pas bio, parce qu'il faut au moins 4 km de rayon pour qu'on puisse dire qu'il n'y a pas de culture ni de pesticides. Mm-hmm. Hein, ce n'est pas évident. Bon, écoute, est-ce que tu as d'autres choses à dire sur les buts de l'association ? Ça s'appelle les penseurs de terre.
Alors, les penseurs de terre, PAN, bien sûr. Il a tout le sens qu'on a voulu y mettre. Et voilà, nous, on est... Le prochain événement de l'association, ça sera le 31 novembre et le 1er décembre, où là, on fera un chantier école de plantation, justement, des fruitiers, qui sera les premiers arbres plantés du jardin forêt à Yenne.
À Yenne.
Voilà.
Retenez bien, 31 novembre.
Et le 1er décembre.
Et on s'adresse à qui, parce que pour l'instant...
Alors, on peut aller sur la page Facebook de l'association ou bien nous contacter par email. Le site internet n'est pas encore en route. Voilà, c'est dans
les projets. Alors, internet, c'est simplement penseur de terre.
Voilà, PAN.
Tout attaché.
Alors, penseur de terre, PAN, avec un S à penseur et de terre, voilà.
@ Gmail.
Gmail,
voilà. .com.
Exactement.
Penseur de terre. Mettez pas penseuse comme je le dis, hein. Penseur, comme pansement, hein. Mais c'est aussi des penseuses, vous l'avez remarqué, bravo à elle. Super, eh ben merci beaucoup, puis à bientôt alors.
Ah oui, avec plaisir.
On va en refaire une, peut-être que vous allez tenir une chronique ici.
Qui sait. Merci
beaucoup. Au revoir,
Sandrine.
Au revoir,
merci.
C'était la Seine Cause pour un bien commun et un monde vivable.